Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Peut-on évangéliser sans coloniser ? En disant ça, j'ai peur que mon invité se lève et prenne la porte. Mais Claudia Schulz, que je reçois aujourd'hui, est pleine d'humour et prend ma provocation avec le sourire. Bonjour Claudia et merci d'être là.
Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
Claudia est permanente à la SEVA. La SEVA, c'est l'ancienne société des missions de Paris, je crois.
Évangélique de Paris, oui.
Voilà. Et c'est pourquoi je faisais allusion à la colonisation. Car historiquement, au départ, il s'agissait bien de collusion entre mission et colonisation, non ?
Pas tout à fait.
Ah, alors expliquez-nous.
En fait, la Société de Mission Évangélique de Paris a été fondée en 1822, autant dire que c'était bien avant la colonisation. Et les premiers champs missionnaires, comme on disait à l'époque, étaient notamment le Lesotho et le Zambèze, ce qui est aujourd'hui la Zambie. Donc, c'est deux endroits de l'Afrique australe qui n'ont jamais été colonisés par la France. Je veux dire, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et il y a des endroits où, effectivement, il y a des missions qui étaient complètement indépendantes de colonisateurs. La question de la colonisation avec la mission est venue bien après la conférence de Berlin qui a eu lieu en 1884 et 85, qui a départagé l'Afrique entre les grandes puissances européennes. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a eu, comme vous dites, par moment, des formes de collaboration, de soutien réciproque ou peut-être, comme vous dites, collusion entre les missions et certains organismes missionnaires et le pouvoir colonial, c'est certain. D'accord. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il faut aussi dire que selon les pays, selon les églises, les évangélisations ont été faites parfois par des personnes locales. Par exemple, au Bénin, l'église évangélique, l'église méthodiste du Bénin, elle a été évangélisée par des gens du Libéria, donc par des Africains.
D'accord.
Donc, c'est vraiment très complexe, très nuancé, et notre vision un peu généralisante peut fausser beaucoup de choses.
Mais on est là justement pour redresser les choses et éviter de faire des généralisations hâtives ou fausses. Alors, SEVA, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Là, il y a deux E. Hein.
Non, c'est deux A.
Ah, bon, alors j'ai tout faux. Alors, C-E-V-A-A. D'accord.
Voilà.
OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, à l'origine, effectivement, la SEVA, c'était un acronyme et ça voulait dire Communauté Évangélique, donc EV Évangélique, d'Action Apostolique. Ce nom-là a été donc créé en 1971 au moment de la dissolution, justement, de la Société des Missions Évangéliques de Paris, la SMEP, et de la création du DEFAP et de la SEVA. Mais au bout d'un certain temps, ces mots « action apostolique » n'étaient plus vraiment bien compris par les paroissiens de base. Et du coup, SEVA est devenu un nom propre. Donc, c'est pour ça qu'on n'écrit plus que le grand C et le reste en petit.
Ah bon, d'accord.
C'est la SEVA.
Il faut que je recorrige tout ce que j'ai fait parce que j'ai fait plein d'erreurs.
C'est pas grave, c'est pour ça qu'on est là ensemble
voilà.
pour connaître mieux.
Ouais.
Voilà. Donc la SEVA et aujourd'hui on ajoute communauté d'église en mission. Donc c'est en fait ça qui est vraiment important. La SEVA est une communauté de 36 églises là c'est en ancien, il y a 35 seulement, dans 25 pays. Sur 4 continents, l'Afrique centrale, il est reparti en 5 régions. Donc effectivement, en Afrique centrale, en Afrique occidentale et du Nord, en Afrique australe et océan Indien, dans le Pacifique et l'Amérique latine et en Europe. Et toutes ces églises ensemble essaient justement de faire des actions, de l'animation théologique, du soutien à des boursiers, un travail en direction des femmes et des jeunes.
Ben, tout ça, on va le voir après parce qu'on va prendre chaque point. Là, je voulais qu'on définisse ce dont on allait parler. Donc, la CEVA, donc je retiens déjà que c'est une communauté d'église et non pas un système hiérarchique.
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
Que donc c'est dans 25 pays, 4 continents. Mais alors les relations avec le DFAP, parce que on me pose souvent la question et je sais pas trop y répondre entre la CEVA et le DFAP. Alors le DFAP c'est
alors, je comprends très bien. Le DFAP, c'est le département évangélique d'action apostolique, hein, c'était ouais. La même idée, des églises françaises de la CEVA.
D'accord.
En fait, donc, il y avait à l'origine l'UNEPREF, les anciens ERI.
Ouais.
Il y avait l'Église réformée de France, l'Église ouais. luthérienne de France, l'Église réformée d'Alsace et l'Église luthérienne d'Alsace. Ça, c'était les 5 églises qui ouais. étaient dans le DFAP. Et ces 5 églises, donc, avaient demandé à avoir un département missionnaire sur le territoire français pour faire l'animation de la CEVA,
ouais.
de la CEVA en France.
D'accord. Donc, d'accord. Donc, le DFAP, c'est en fait le bras pratique, si on peut dire, français pour la CEVA.
Alors, c'est ainsi que ça a été imaginé et c'était le début du travail, effectivement, comme ça. Tout à fait, ça, c'était le début. Entre-temps, comme tout dans la vie, les choses ont évolué. Aujourd'hui, le DFAP a aussi des liens avec des églises en dehors de la CEVA et elle a aussi des activités qui sont en dehors de l'animation missionnaire pour la CEVA. Donc, le DFAP a pris une forme de d'indépendance, d'autonomie, ce qui fait aussi que parfois justement ça crée des confusions sur qu'est-ce que fait le DFAP, qu'est-ce que fait la CEVA. Mais au niveau structurel, la grande différence c'est que le DFAP appartient maintenant uniquement plus qu'aux deux églises qui restent, si j'ose dire, ouais. à l'EPUDF et l'UEPAL.
Ouais.
L'UNEPREF a quitté le DFAP, ça a été acté à la dernière Assemblée Générale le 29 mars 2025. Donc voilà, le DFAP, il est dans les mains, dirigé et financé par les deux églises, par les deux unions là qui restent.
Les réformés.
Exactement.
D'accord, donc alors, français intérieur et Alsace-Lorraine.
Ouais. Exactement. D'accord. Alors que la CEVA, voilà, ça reste quand même la grande communauté de 36 églises où toutes les églises décident, toutes les églises contribuent, toutes les églises réfléchissent ensemble.
D'accord. Bon, ben, je crois qu'on commence, enfin, en tout cas, moi, je commence à comprendre un peu mieux. Donc, le but, c'est témoigner, donc, le témoignage chrétien en parole et en action. Alors, on va voir les actions, comme je l'ai dit, mais, vous êtes un mouvement protestant.
Oui.
Bon. Dans la charte, il est dit que vous êtes ancré dans les traditions issues de la réforme protestante au XVIe siècle. Et comme toute la réforme protestante, vous affirmez la gratuité du salut par la foi, la primauté du témoignage biblique.
Tout à fait.
Donc, c'est bien ça.
C'est tout à fait ça.
D'accord.
Tout à fait ça.
Et puis, j'ai retenu, parce que je suis assez axée là-dessus, c'est la place des femmes. Alors, vous êtes dans des églises qui sont pas forcément sur le même rythme de, comment dirais-je moi, de mode au niveau des thèmes sociétals, etc. Et donc, on va voir comment ça se passe parce que dans la charte, c'est marqué, nous croyons que tous, hommes et femmes, sont capables de participer pleinement à la vie et à la direction des églises et appelé à s'engager dans le domaine social, culturel, politique et environnemental. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des églises avec qui vous êtes en relation? Elles ont des femmes pasteurs ou alors vous les aidez à prendre en compte le rôle de la femme autre que de, comme on pourrait le voir peut-être dans un schéma un peu éculé, la femme qui porte les bidons d'eau ou les choses comme ça, ou qui s'occupe de la cuisine, des enfants. Merci. Je suis pleine de stéréotypes hein, ce matin.
C'est ça. Oui, merci pour la question. Alors, il est certain que dans les 36 églises, là encore une fois, les situations sont extrêmement variées. Vous avez des églises, je pense à l'église de Tahiti, hein, l'église Maui, où les femmes sont dans la direction de la secrétaire générale. Donc mon homologue, c'est une jeune femme extrêmement intéressante d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes pasteurs dans cette église. Il en est de même, par exemple, à l'église évangélique du Cameroun. Là, pareil, la secrétaire générale, c'est une femme pasteur, une femme très dynamique, très volontaire, beaucoup d'énergie. Donc il y a là, je reviens du Congo, comme je vous ai dit, du Congo-Brazzaville, dans la direction, dans le bureau synodal, qui sont 6 personnes, il y a une femme pasteur, la pasteur Pélagie. Donc, il y a des églises où les femmes sont vraiment très présentes, jusque tout en haut de la hiérarchie. Donc, c'est vraiment très réjouissant, parce qu'on sent que quand il y a les femmes qui entrent à ce niveau-là de la hiérarchie, qu'il y a des choses qui ne se vivent pas de la même manière que quand c'est uniquement administré par des hommes.
Par exemple, vous pouvez nous dire dans quel domaine ça se ressent le plus?
Ben, ce n'est même pas une façon de... Mais c'est des façons de réfléchir et de prendre des décisions qui n'est pas la même.
Ah ouais?
Mais il y a aussi des églises où effectivement, même l'ordination de la femme au ministère pastoral reste encore compliquée. Et ce sont essentiellement des églises qui évoluent dans un contexte musulman. Où la société environnante rend les situations très difficiles. Je pense par exemple à l'église luthérienne du Sénégal qui a des femmes théologiennes,
ouais,
qui travaillent en tant que catéchètes et qui sont très engagées, mais où l'ordination de la femme reste compliquée parce que c'est un pays 95% musulman. Et donc du coup, y a tout un contexte culturel qui pose difficulté. Mais les églises ont envie de bouger, hein, donc ça c'est clair. Donc il faut les aider et les accompagner.
Ça bouge à ce niveau-là, ça se développe la place des femmes.
Oui. Alors en fait, les femmes, elles ont une grande place, mais il y a certains, comment dirais-je, certains aspects qui sont compliqués à cause du contexte culturel.
Oui.
Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de place. Par exemple, la présidente des femmes, parce qu'il y a, comme chez nous, on avait autrefois les ouvroirs des femmes, n'est-ce pas? Là-bas, c'est souvent les groupes de femmes qui ont des présidentes, qui ont un poids énorme.
Oui.
Énormes et qui ont vraiment une capacité d'influence que n'ont jamais eu nos ouvroirs européens. Donc, il faut se dire que les femmes, elles arrivent à influencer l'Église à travers d'autres canaux.
Oui.
Canaux. Hein.
Oui.
Mais voilà, certains endroits restent compliqués. Ça, c'est
d'accord,
sûr.
D'accord. Et alors, finalement, vous êtes quand même... une organisation très basée sur la théologie. Avant même, je peux pas dire avant parce que j'en sais rien, mais est-ce qu'avant d'être un organisme de développement ou en même temps, vous êtes un organisme de théologie avec le développement de la théologie? Comment ça se passe? Est-ce que les églises qui sont avec vous, est-ce qu'elles sont intéressés par la théologie? On pourrait se poser la question par rapport par exemple dans des contextes de famine ou de difficultés, on pourrait se dire la théologie ça passe au second plan, non?
Oui, on pourrait imaginer ça. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, la base de la CEVA, c'est justement les questions théologiques et donc de réfléchir comment l'Évangile peut être traduit dans le monde actuel. Donc, c'est une réflexion continue sur la place de l'Évangile et de ce que l'Évangile a apporté et à dire dans le monde et dans les difficultés que nos différents pays, les différentes sociétés rencontrent. Et puis, en parallèle et en même temps, un point très important depuis les origines de la CEVA, c'est les échanges de personnes. Donc, tout ce qui tourne autour de la rencontre. Là, nous étions, comme je vous ai dit, au Congo-Brazzaville avec le conseil exécutif, donc qui est l'organe de décision. C'est un peu comme le conseil presbytéral ou le conseil d'administration d'une association pendant une semaine. Et moi, j'ai même pu y être un peu plus longtemps parce que j'ai fêté les fêtes de Pâques avec l'église au Congo. Et donc, rien que le fait d'être là-bas pendant comme ça une dizaine de jours, ça permet beaucoup de rencontres, d'échanges, de débats théologiques, beaucoup, parce qu'il y a une université, une faculté de théologie à Brazzaville. Et la réflexion sur la théologie, ce n'est pas une réflexion théorique loin des personnes, c'est une réflexion qui, justement, a de l'influence sur la vie. Comment est-ce que on imagine la place justement de l'homme et de la femme? Qu'est-ce qu'on fait autour de la question de l'éducation des enfants? On a beaucoup discuté, c'est un grand sujet là-bas, la violence basée sur le genre. Et l'Église se bat à partir de versets bibliques, notamment contre la violence basée sur le genre. J'ai vu dans l'Église des affiches qu'ils ont fait qui parlent de la question de l'inceste pour dénoncer cela. Donc la théologie, elle est au service aussi de la vie concrète. Et là, on a beaucoup de choses à partager.
Oui.
Toujours.
Oui.
Et ça, c'est vraiment la priorité de la CEVA. La question de développement est une question qui est arrivée, on va dire, beaucoup plus tard. Au début, c'était pas du tout dans les priorités de la CEVA, parce qu'en 1971 et dans les années qui ont suivi, on a imaginé que les pays tout juste indépendants allaient se développer et allaient très vite rattraper l'Europe au niveau standard et standing. Malheureusement, nous avons réalisé, surtout à partir du premier choc pétrolier et d'autres difficultés, que cela ne s'est pas fait du tout.
Bien sûr.
Et que donc un développement communautaire est devenu de plus en plus important et important et nécessaire. Mais c'est vraiment un deuxième point. Et nous essayons de faire en sorte que cela ne prenne pas trop de place, parce qu'il y a des ONG qui savent faire ça très bien.
Et ce qu'il
y a comme développement, c'est vraiment les axes que les églises elles-mêmes proposent par rapport à la population locale et où elles sont impliquées. Donc, c'est pas des grands programmes comme fait la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières ou des organismes comme ça. C'est vraiment des petits projets qui sont en lien avec la population locale et pilotés par les églises dans le but d'un témoignage. Dans le but, le témoignage de dire tout l'évangile à tout l'homme, c'est-à-dire pas un évangile uniquement pour sauver les âmes, si j'ose dire, mais pour que l'être humain dans son intégralité puisse vivre dignement.
Et alors, en vous écoutant là parler de la, finalement, de théologie pratique d'une certaine façon, je me demande, est-ce qu'il y a un message aux autres? La CEVA faire un message aux autres églises protestantes qui peut-être quand elles sont françaises sont axées sur la théologie, je dirais universitaire, peut-être plus axées sur la théologie universitaire. Ça c'est ma première question, donc par rapport aux églises et puis par rapport au reste de la société et aux ONG dont vous parlez. Alors d'abord les églises, est-ce que vous pensez que la CEVA a quelque chose à dire et est-ce qu'elle le fait? Comment ça se passe au niveau de la... Parce que moi la CEVA je connais parce que on nous dit il faut donner tel dimanche pour la CEVA comme il faut le donner pour le DEFAP, alors on donne à la sortie du culte et puis on n'est pas plus avancé finalement. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter par rapport à cette théologie justement pratique dans la vie quotidienne?
Alors, la théologie pratique de la vie quotidienne, elle est issue bien sûr d'une réflexion universitaire. La réflexion universitaire au niveau de la théologie, elle se fait en dialogue. l'IPT de France, Montpellier et Paris, travaillent en étroite collaboration avec des facultés que nous soutenons au niveau de la CEVA, notamment dans le Pacifique, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mmh. Et nos professeurs vont là-bas, et puis il y a des professeurs d'ici, de là-bas qui viennent ici. Donc, il y a un dialogue et un échange permanent.
Des deux côtés.
Ouais. Mais pas seulement des deux, mais vraiment dans tous les sens. Hein.
D'accord.
C'est extrêmement varié et vraiment, il y a un échange et un enrichissement réciproque. Très fort, très très fort. Olivier Abel, il était au Congo.
Oui, je l'ai vu dans Réforme ou voilà. je ne sais plus.
Non, mais donc vraiment, au niveau universitaire, ça bouge beaucoup et il y a des échanges et une mobilité très forte. Hein. Il y a les gens de Strasbourg, de la faculté de Strasbourg, qui vont à Al-Mouwafaqa au Maroc, par exemple. Donc, je veux dire, le niveau existe très facilement au niveau universitaire. Et il permet de nourrir justement la théologie pratique des différents endroits en dessous. Et c'est ça qui est chouette d'ailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'au niveau universitaire, il n'y a plus du tout de difficultés pour dialoguer. Dans un sens et dans un autre, sud-sud, nord-sud, sud-nord, enfin, dans toutes les directions. Et ça, c'est vraiment magnifique. On a fait un très beau colloque il y a 2 ans, en 2023, à 7, où des professeurs, des représentants de toutes ces différentes universités étaient présentes et où on a tissé des liens, ce qui a fait déjà plein d'échanges concrets derrière. Donc ça, c'est vraiment du vécu.
Oui, c'est ça, oui. Oui.
Alors après, en ce qui concerne qu'est-ce que ça apporte, eh ben, l'idée, c'est que derrière, les étudiants qui sont en études dans ces différentes universités,
ouais,
soient inspirés pour se déplacer parfois un peu intérieurement, tenir compte de ce qu'ils ont aussi reçu comme apport de théologiens de d'autres universités, de d'autres univers culturels, pour ouvrir leur horizon.
Oui, oui.
Pour que dans le travail paroissial qu'ils vont faire par la suite, il y a un esprit d'ouverture et une capacité d'être dans l'action interculturelle plus grande.
Alors, je vais me faire l'avocate du diable. j'aime bien faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'acculturation globale? C'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'une culture théologique, puisque c'est merveilleux, justement, ces échanges. Je trouve ça très bien, mais est-ce que ça ne risque pas d'uniformiser, d'une certaine façon, la pensée? Si on s'enrichit tous, est-ce qu'on va pas déboucher sur une pensée, je dirais pas unique, parce que dans le protestantisme on n'aime pas, mais est-ce qu'il y a un risque?
Alors, c'est une très très bonne question et ça me fait sourire parce que ça me fait penser au wokisme dont parlent d'autres.
Oui.
Ouais, ouais, non, mais je comprends très bien votre idée. J'ai envie de dire la réponse est non, clairement non, pour une raison très simple. C'est que tous les théologiens sont insérés dans un pays et dans une culture donnée. Et même si le fait de rencontrer d'autres théologiens, ça permet d'ouvrir l'esprit et parfois de se déplacer un peu intérieurement, ben, nous vivons quand même au quotidien et en permanence dans notre culture.
Ouais.
Et il faut ce que nous avons appris ailleurs soit de toute façon adapté de nouveau à notre culture. On peut pas faire des copier-coller et on peut pas non plus faire un mélange de tout, c'est pas possible. Mais le fait d'avoir entendu ou vécu la théologie comme elle est vécue ailleurs permet parfois de comprendre et d'ouvrir notre horizon à des gens que nous accueillons dans nos paroisses et qui viennent d'ailleurs et dont souvent nous ne comprenons pas comment ils fonctionnent.
Ouais.
Et comment ils réfléchissent et comment ils vivent, eux, la foi. Et c'est pour moi simplement la possibilité d'être plus en échange et plus en dialogue avec des personnes comme ça, d'être plus accueillant, de tenir compte et de leur donner une place, pas seulement de leur laisser une place, mais vraiment de leur donner une place.
Et alors, ça se fait bien au bout d'un certain temps, les gens qui arrivent ici en France et qui n'ont pas la même façon de fonctionner au départ arrivent assez vite à se mettre dans le bain d'une pensée plus occidentale, d'un fonctionnement différent.
C'est très variable. Ça dépend énormément les personnes.
D'accord.
Et leur histoire.
D'accord.
Je ne peux pas faire des généralités.
OK. OK. Et vos rapports avec les ONG, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de rapport sur le terrain?
Alors, il y en a quasiment pas, pour la simple raison que voilà, la CEVA n'est pas une ONG et ne veut pas l'être, oui. Et ne veut pas être assimilée, parce que le financement de la CEVA, c'est les églises,
oui.
Les contributions des églises.
Ouais.
Et donc, du coup, si on a des collaborations avec les ONG, c'est uniquement à travers les églises.
D'accord.
Et il est vrai que, par exemple, en Afrique, vous avez toujours beaucoup d'églises qui ont des liens avec des ONG diverses et variées.
Oui, hein? D'accord.
Je vais donner un exemple tout concret. L'église presbytérienne au Rwanda,
ouais,
avait beaucoup de liens avec USAID.
D'accord.
Notamment dans des programmes d'accompagnement des personnes qui sont infectées par le VIH.
Oui, pour le sida.
Pour le sida, mmh. Exactement. Mmh. Et maintenant, le démantèlement de l'aide américaine, ouais. USAID, ouais. Est un grand problème.
Oui.
Parce que, du coup, beaucoup de personnes se trouvent sans suivi médical et l'Église a du mal à trouver les médicaments pour continuer à accompagner ces personnes. Et donc là, on est au courant et on réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire.
Ouais.
Mais c'est vraiment les églises,
oui,
qui,
oui,
ont,
d'accord,
les contacts avec, ouais, les,
oui,
ONG,
oui, oui.
C'est leur réseau à elles.
D'accord.
Et nous n'intervenons pas, mais c'est juste qu'on est parfois au courant quand ça se passe bien ou aussi quand il y a des difficultés, comme en ce moment, par exemple,
oui, bien sûr,
suite à la décision du président américain.
Bien sûr. Alors, on va faire une pause musicale et on se retrouve ensuite pour voir votre action concrète.
Pas de souci.
Alors, on se retrouve avec Claudia pour parler des actions donc de la CEVA. Alors, vous soutenez des actions communes et des programmes missionnaires. Donc, il y a un but donc de faire partager l'Évangile le plus loin possible, le plus largement possible. Alors, ces actions communes, elles partent pas seulement de la France ou des pays occidentaux, elles partent de partout.
Alors, en fait, l'action commune, c'est tout d'abord une décision de l'Assemblée générale. Mm-hmm. Et donc, c'est à ce moment-là, quand il y a les délégués des 36 églises qui sont réunies ensemble, ils décident quelle action commune ils vont entreprendre en fonction de la situation, on va dire, d'actualité. Il y a eu une première action commune en 2006, c'était la caravane des femmes pour la paix. Donc, c'était une action très forte qui a vraiment duré pendant 2 ans. Et puis, il y a eu une autre action commune qui était à la rencontre de nos voisins différents. Il y avait le voisin malade, justement, dans les années 2008, c'était beaucoup autour de la question déjà du sida. Du voisin qui a une autre foi, donc c'était toute la question du dialogue interreligieux,
oui, oui, oui,
aussi, mmh. Voilà. Et donc actuellement, depuis l'assemblée de 2023 qui a eu lieu à Jacqueville en Côte d'Ivoire, l'Assemblée générale a décidé une nouvelle action commune qui s'appelle Habiter autrement, la création. Donc c'est autour des questions d'environnement.
Ah, c'est intéressant ça.
Et donc, cette action commune, elle est prévue jusque 2028. Et donc, actuellement, toutes les églises, à différentes manières, dans différentes formes, réfléchissent et font des actions concrètes autour des questions de l'environnement. L'année dernière, mon collègue Omer Dagan, le pasteur Omer Dagan, a fait 5 séminaires régionaux dans les différentes régions de la CEVA pour justement réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire là où on vit. Parce que les défis existent partout, mais c'est très différent si vous vivez en Europe ou si vous vivez à Tahiti ou si vous vivez en Afrique centrale. Il y a des problèmes partout. Le réchauffement climatique, le changement climatique se montre partout. Les problèmes des déchets sont partout. Mais c'est les priorités sont différentes selon et les possibilités d'action sont différentes aussi selon les endroits où, où vous vivez. Et donc, effectivement, il y a un travail régional très ancré jusqu'aux paroisses de base qui est fait. Et en même temps, c'est quelque chose de commun parce que nous n'avons qu'une seule terre.
Exactement, exactement. Et justement, cette terre, donc, il faut partager les ressources matérielles, il faut partager aussi les ressources humaines. Alors, partager les ressources matérielles, bon, on voit que là, on est dans un dialogue qui n'est plus nord-sud, mais qui est global. Partager les ressources humaines, comment faire dans un monde qui est de plus en plus xénophobe, qui ferme ses frontières, qui a comme principes nationaux que l'étranger est toujours quelqu'un de dangereux. Comment faire pour... Enfin, je suppose que vous avez des réflexions là-dessus.
Ouais, merci pour la question. Effectivement, comme vous dites, la mission, c'est pas maintenant seulement dans une direction, c'est effectivement la mission de partout vers partout.
Oui, c'est joli ça.
Ouais,
de
partout. De partout vers terre. C'est une parole qui est déjà bien ancienne et qui fait partie des mots d'ordre de la CEVA depuis très longtemps.
Ouais.
Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, il est certain que dans un monde moderne, ou en Europe, et je souligne vraiment ce point, la peur de l'autre prend le pas sur l'espérance, il est clair que y a des choses qui sont difficiles. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la CEVA, nous fonctionnons maintenant souvent en région. Parce que quand on réunit les différentes églises de l'Europe qui viennent de la Suisse, de la France et de l'Italie, nous avons déjà une grande variété d'églises avec en plus des thématiques similaires. Et il n'y a pas des questions de visa.
Oui.
Voilà, parce qu'on est dans le même espace européen.
Oui.
Et il est certain, quand on fait des séminaires régionaux, justement, par exemple, en Afrique centrale, etc., ou Afrique de l'Ouest et du Nord, pareil, la thématique des visas est faible parce qu'il y a la CDAO, par exemple, ou la communauté des églises d'Afrique centrale, où il y a aussi des exemptions de visa.
D'accord.
Hein? Donc, on essaye justement de réfléchir au niveau des rencontres de sorte à ce que ça ne soit pas un gros problème. On s'adapte. Il faut s'adapter. Ouais. Voilà. Et il est vrai que les églises, en tous les cas dans certains pays, ont aussi les possibilités d'aider les personnes qui se déplacent pour les démarches de visa si un visa est nécessaire.
Parce que c'est de plus en plus compliqué pour avoir des visas pour aller en France.
Alors ça dépend, énormément les pays et d'origine et ça dépend aussi les relations. Il y a à partir du moment où vous avez des dossiers qui sont bien montés avec toutes les pièces, avoir des visas de tourisme de 3 mois parce que c'est ça en règle générale, c'est tout à fait possible.
D'accord. Alors, vous avez aussi un but qui est d'éveiller les capacités créatrices pour la formation et l'éducation communautaire. Par la formation, je suppose que c'est aussi le thème protestant de lire la Bible. Déjà, il faut savoir lire pour être protestant, pour lire la Bible. Et donc ça, vous intervenez dans cette thématique, disons, d'alphabétisation et de développement, de formation par l'école.
Alors, nous n'intervenons pas directement, c'est à chaque fois les églises.
Ouais.
Et effectivement, un des grands héritages des missions, c'est les écoles.
Oui, bien sûr.
Quand vous discutez avec les responsables des églises en Afrique, ils vous disent tous que les missionnaires ont laissé un héritage de trépied.
De
trépied.
D'accord.
L'école, la santé,
oui,
et le culte. La parole.
Ouais.
Alors, c'est comme votre microphone là.
J'espère que ça tient mieux parce que.
Voilà. Mais non, mais voilà.
Du micro, mais il tient pas bien.
Et donc sur ces trois pieds là, on est assez stable en principe, n'est-ce pas? Et l'évangile pénètre par ces trois pieds là. Donc par l'éducation, par la santé, et puis aussi par le culte. Et il est certain qu'au niveau de la CEVA, quand les églises proposent des projets pour les écoles, à travers les fonds de la communauté, nous soutenons les projets pour les écoles. Mais ce n'est pas nous, c'est les églises elles-mêmes. Et je tiens à vraiment rappeler, en dehors des choses qui sont décidées par l'Assemblée générale, comme l'action commune, par exemple, la CEVA en soi n'a pas de programme. Les programmes viennent des églises.
Ouais.
C'est toute la différence avec une ONG. Nous n'avons pas un but que nous voulons atteindre autre que finalement partager l'évangile et permettre aux églises d'être témoins là où elles sont.
D'accord. Et vous avez aussi un but qui est de développer des réseaux de vigilance pour le respect des droits humains.
Mmh.
Alors, qu'est-ce que vous faites particulièrement dans ce domaine ?
Alors, en ce qui concerne cette question-là, il y a effectivement une partie de plaidoyer,
ouais.
Que nous faisons, notamment en lien, par exemple, cela.
Ouais.
Les différents séminaires ont fait des résolutions avec des pétitions que nous avons envoyées au niveau des gouvernements. Nous faisons des actions visibles. Là, quand on était au Congo, on a fait toute une matinée le nettoyage de rues et des caniveaux dans la capitale, à Brazzaville, aidé par les jeunes de l'église, mais nous aussi, pour montrer l'importance justement de la dignité et l'impact des pollutions sur la santé. Et donc, c'est le ministère de l'assainissement qui nous a soutenus et qui a vraiment accueilli avec beaucoup de bienveillance notre action. Donc, c'est des choses très concrètes parce que la dignité humaine, elle est vaste. Hein. C'est évidemment les questions de droit, mais c'est aussi justement le droit à la santé. Si vous prenez les objets du développement durable des Nations Unies, et c'est très vaste. Hein. Et on essaye vraiment d'être proche de ces thèmes-là selon notre action commune actuellement.
D'accord. Alors, bon, il reste susciter chaque fois que c'est possible un dialogue et une collaboration avec les acteurs sociaux. Ça, c'est et religieux. C'est comme vous avez parlé du dialogue interreligieux et puis des, je suppose, avec les politiques du pays en question. Donc, vous aidez ou vous proposez d'avoir ce dialogue. Enfin, vous...
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et autant que c'est possible, dès que c'est possible, quand nous nous déplaçons, pas seulement moi, mais aussi les membres du conseil ou d'autres responsables, nous essayons d'aller à la rencontre notamment des différentes ambassades et aussi des différents ministères. Comme là, on a été au ministère de l'assainissement et effectivement, on a aussi été reçu à l'ambassade de France au Congo. Et récemment, il y a un collègue qui a été au Sénégal qui a été reçu aussi. Parce que il nous paraît important, dans la situation géopolitique générale que vous avez évoquée tout à l'heure, de soigner les relations avec les corps diplomatiques pour dire que la CEVA est une association extrêmement sérieuse qui travaille pour le bien des uns et des autres là dans les pays où les églises sont installées, qui veut vraiment aider au développement des communautés et de la population en général. Et quand nous faisons des rencontres aussi pour dire que les personnes qui viennent sont des personnes avec des grandes responsabilités à qui on peut confier un visa sans problème.
D'accord. Alors, il me reste juste à vous poser une dernière question extrêmement rapide. Si on veut faire des dons sans passer par les églises, comment on fait? S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas dans les églises, comment ils peuvent, à qui ils peuvent s'adresser?
Ah ben, je vous remercie beaucoup pour cette question. Nous sommes affiliés à la Fondation du protestantisme. Oui. Nous sommes avec une fondation individualisée à la Fondation du protestantisme. Donc, quand on fait un don à la Fondation du protestantisme pour la CEVA, la Fondation CEVA, ça nous arrive et ça donne droit même aussi à des réductions d'impôts.
Et alors, on trouve ça sur Internet. On tape CEVA, don...
Vous trouvez ça et puis vous trouvez aussi sur le site de la Fondation du protestantisme.
D'accord. Donc, les auditeurs que ça intéresse, vous allez voir CEVA, C-E-V-A-A, sur Internet, don, et ou alors Fondation du protestantisme, vous tapez CEVA et puis vous aurez toutes les coordonnées. Merci beaucoup Claudia, je remercie nos auditeurs et je leur donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Thème et anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.